bienvenue à La Causeuse. Comme on l'a annoncé la semaine dernière, La Causeuse cette semaine, on discute de créateurs de contenu. C'est sûr qu'on aurait pu être un peu plus clair que ça. En fait, la conversation vient beaucoup de... c'est pas la première fois pendant le show qu'on présente des chaînes YouTube qui ont inspiré des discussions ou du contenu. Alors, quelles sont les chaînes YouTube intéressantes qu'on aime fréquemment revisiter ou tout simplement le type de contenu qu'on aime fréquemment revisiter?
They fail! They fail!
Applaudis, toi! Ah ouais, c'est une erreur!
Oh. Ben, j'haïs quand même pas ça.
Non, ok.
Non, mais il y a clairement des contenus qui sont mainstream, là, que tout le monde va regarder puis qui attire les clics. Il y a des contenus clickbait comme justement les fail
chats.
Compilation, les chats,
les chats.
Les trucs comme Dude Perfect, là, les trick shots.
Ben, les wins.
Les wins.
Finalement, c'est les wins. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire, là, les trick shots, toutes les feats of awesomeness. Mais les wins.
Mais j'écoutais ce matin, à la date de l'enregistrement, là, pas ce matin quand vous l'écoutez.
Ben, peut-être.
Dans le futur, tout.
Comment il s'appelle, le gars qui se peinture la moitié du visage en argent, parce qu'il joue comme un robot, puis il débunk les vidéos. Qu'est-ce qu'il fait sur...
Je ne connais pas.
L'inspecteur viral.
Il a tout le temps comme un jacket jaune, puis il se peinture la moitié du bas du visage argenté. Puis le gars, c'est clairement comme...
Le make-up, ça me dit de quoi, mais pas plus que ça.
Mais lui, il regarde les vidéos, puis il débunk, genre ça c'est fake pour telle raison, puis il va montrer comment ça a été fait, puis il explique comment reproduire ces effets-là.
Okay.
Puis ce matin, une vidéo, c'est justement à propos de ça. Il parlait des trick shot videos, puis il y en a deux sortes. T'as les
itérations. Le monde qui ont fait un trick shot 1 500 000 fois puis qui font un montage de la fois qu'ils ont réussi.
Ouais, ben, il explique entre autres comment le faire. Il explique à ceux qui le font fake puis ceux qui le font pour vrai. Mais il explique que t'as le trick shot vidéo où le personnage dans une vidéo fait son trick shot puis il réagit comme si rien n'était puis c'était bien normal. Puis t'as le trick shot vidéo où il fait puis c'est comme oh my god! Puis tout le monde qui a fait des gens sont partout. Puis il expliquait que comme c'est des vidéos qui attirent tout le temps beaucoup de clics, genre comme la 20e chaîne à plus regarder sur YouTube, c'est Dude Perfect, quelque chose comme ça. Là.
Ah ben, nick.
Non, c'est vraiment énormément de trafic.
By the way, Dude Perfect qui ont leur propre ligne de jouets Nerf, là. Les ballons et tous ces cossins-là.
Ouais.
Ouais.
Non,
c'est quand même.
Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il expliquait que souvent des compagnies comme Nike ou peu importe vont prendre les joueurs, les sportifs comme ça, puis ils vont faire des faux vidéos où ils vont prendre quelqu'un puis ils vont le rendre comme surhumain. Pour montrer comme gars, parce qu'il y a des souliers Nike qui est capable de faire ça.
Ouais, ben, comme les annonces ont toujours un peu fait.
Ouais, mais ils vont prendre le format trick shot, puis ils vont te faire croire que c'était vrai. Tandis qu'il y en a d'autres, puis, tu sais, là, ils débunkaient ça, ils expliquaient comment tu peux le refaire, comment tu le faisais comme 200 fois, puis à un moment donné, tu le faisais une fois, puis tant mieux. Mm-hmm. Puis ils faisaient des démonstrations, puis ils parlaient de Dude Perfect, puis ils expliquaient Dude Perfect, c'est all real.
Ouais, ça, mais j'aime bien aussi, tu sais, la fameuse vidéo où le gars, genre tout le monde célèbre quand il réussit son shot, tu sais. C'est sûr, tabarnak, ça fait 1500 fois qu'il tire. Ouais. T'es content d'avoir
yes,
fini.
Je m'en vais chez nous. Oui. Est-ce que je t'en ai?
La foule est en délire.
Une foule, c'est une chose. Une foule 8 bits, c'est. C'est un petit peu moins agréable, ses oreilles.
mais c'est ça. Tout ça pour dire que c'est sûr qu'à un moment donné, quand un type de contenu vidéo devient extrêmement populaire, là, ça l'attire le clickbait, ça l'attire les compagnies. Hein, on peut faire de l'argent avec ça. Fait que comment on peut reproduire nos propres. Tes vidéos.
Oui, reprendre la formule. Là, parce que les formules, souvent, sont assez simples. Si on parle d'une vidéo de film, c'est de trouver du monde qui se pète la gueule. Ça dit, envoyez-les nous, puis on partage le revenue ou pas.
Mais c'est la formule, la bonne vieille formule de
du ballon dans
drôle
la fourche.
De vidéo. Du ballon dans la fourche. De drôle de vidéo, là, tu sais, que ça fait 30 ans que ça marche, là, les America's Funniest Video, puis les vidéos de fail là, avec Bruno Landry, là, sur V.
Ah, sac. Ouais, mais c'est le fun, pas de commentaires.
Oui, je suis d'accord.
Ouais, mais c'est vraiment des...
Ou genre juste le genre, and that's when Timmy knew that he fucked up. Là,
and it's at that moment that Timmy knew he fucked up.
Puis, mais toutes ces vidéos-là, c'est pas vraiment bon.
Non.
Mais on les regarde quand même.
Ben, on aime ça mais si on parle pas des films, si on parle des trick shots puis tout ça, on aime toujours ça, les feats of human performance.
Oui, mais je pense qu'on aime le contraire. On aime l'inverse aussi.
Oui, mais pas pour les mêmes raisons. Être impressionné de quelqu'un qui réussit quelque chose de quasiment impossible, c'est réjouissant dans l'humanité, en tout ce qu'on peut faire, en les possibilités. Il y a quelque chose de beau, tu sais, à célébrer quelqu'un qui fait de quoi de cool. T'sais. Il y a Fail Army, c'est tellement pas la direction, je pensais qu'on s'en allait.
Non, hein?
Mais Fail Army ont aussi People Are Awesome. qui est juste des awesome vids. Puis des fois, ils font des crossovers, c'est un check. Mais c'est juste l'idée que c'est des vidéos de monde qui réussissent. Des trucs de slackline hallucinants. Du monde qui font justement du wingsuit, qui font des affaires impossibles. C'est juste célébration de la performance humaine. Puis c'est crissement un stimuli différent. Je comprends que du monde aime les deux parce qu'ils aiment l'athlétisme dans l'ensemble. Ils aiment le monde qui font des choses. Je sais que c'est con à dire, mais
les sports extrêmes, je pense.
Sure, c'est un angle aussi intéressant, mais c'est ça, tu sais, de célébrer la réussite. Sauf que j'ai jamais considéré que c'était un fail, quelqu'un qui se pète la gueule en skate, parce qu'il a échoué en essayant quelque chose, puis un an il va le réussir. Ça fait partie du processus. Ouais. C'est sûr que oui, si le gars, bon, le skate tombe parfaitement vertical, puis il tombe la crotch dessus, c'est drôle en tabarnak, là. Mais je suis simple de même, moi, vous le découvrez présentement. Mais c'est ça, mais je considère pas que c'est des films. Les fois qu'il y a du monde, tu vois des pratiques de cirque, ils sont comme des tapis, puis le monde font des flips, puis ils tombent. C'est comme, ben non, tu sais, c'est le prix à payer pour faire ça. C'est pas un fail.
Ouais. C'est ça. Mais il y a quand même des channels intelligents.
Ben oui, c'est...
Moi, c'est là je m'en...
C'est
là
qu'on s'en allait, je pense, au départ.
Checker bien, on parle avec les créations de contenu, c'est comme « Ah, oh, dude perfect », puis des films. Moi, je suis comme « Ben, j'ai déjà parlé de Idea Channel.
» Mais oui, parce que dans le fond, c'est l'idée de partir. Si on veut essayer de faire un...
Oh my god!
Hein? Rétro pis tout. Dans le fond, il y a des chaînes qui sont très, très comme mainstream, qui sont énormément vues par tout le monde, mais il y a des trucs comme peut-être un peu moins regardés que des chaînes de fail, mais qui ont du contenu intéressant. Puis quand on parle de créateurs de contenu, c'est bien plus des gens qui vont justement créer du contenu, faire quelque chose, que de quelqu'un qui va juste faire une agrégation de...
Ouais, ben, ouais, je suis d'accord que dans le contexte d'agrégation, t'as raison, mais mettons Dude Perfect,
ouais,
c'est
non,
des créateurs
c'est clair.
De contenu.
C'est vrai.
À part entière. Mais Idea Channel, c'est quelque chose que je voulais revenir parce que dans notre dernier épisode normal avant la pause, on a eu une discussion qui a été inspirée de... C'est-tu dans le dernier ou c'est un autre avant? Anyway, dans un épisode avant notre pause, on avait une discussion qui venait d'un épisode de Idea Channel. Puis pendant la pause, j'ai bouffé du Idea Channel, là, mais il y a 5 ans de contenu parce que malheureusement, immédiatement après qu'on ait fait un épisode, ils ont annoncé que ça serait la fin en dedans de 5 ou 6 épisodes après de Idea Channel, après 5 ans. Je l'ai découvert alors, la semaine avant qu'on fasse l'épisode. On fait un épisode, il est juste comme moi. Je pense que. On emballe tout ça pour on décolle.
C'est souvent ça. Anecdote, aucun rapport, mais c'est une causeuse, ça que je me permets.
Go.
Il y a, je sais pas trop, 2 ans, ma blonde qui fait comme « Hey, j'ai découvert une émission de radio à CISM, là, la radio de l'Université de Montréal. Mm-hmm. » C'est super cool, c'est une émission de radio de punk, ça joue genre je sais pas trop, le dimanche matin, nice, là, tu sais, fait que, mets ça dans le feed RSS, l'autre, le dernier épisode, part en char, puis c'est comme, ouais, c'est notre dernière émission. On fait une rétrospective des 8 dernières années, genre, yeah.
Fuck.
Et on était là à dernière.
mais bref, j'ai consommé du Idea Channel comme un malade, puis pour ceux qui n'auraient pas en tête ce que c'est, puis on l'a quand même défini, mais bon, ça fait un certain temps. Idea Channel, on a Mike, j'oublie son nom de famille, on a Mike qui est là, qui nous présente toujours une idée, une hypothèse, en fait, puis qui va passer le reste de l'épisode à l'explorer. Mais une des choses qu'il a comme expliqué dans un de ces épisodes qui mène vers la fin, que j'ai comme allumé de pourquoi cette chaîne-là est si intéressante, c'est que il se présente jamais comme étant un expert d'un sujet. Jamais. Puis il accepte d'avoir tort. C'est comme, OK, ce qui fait qu'une idée souvent est intéressante, c'est parce que t'es pas un expert. C'est parce que le concept t'excite parce que tu le connais peu. Mmh. Puis là, je fais des recherches pour ouvrir une discussion. Mais ils font habituellement, l'épisode suivant est un comment response, où des gens vont commenter, puis ils vont répondre. Puis souvent, il va dire... Ah ben j'ai eu tort, j'avais pas vu la situation comme ça ou je connaissais pas ce point de vue-là, mais l'argument est que le but c'était de susciter une discussion.
Puis quand tu m'en as jasé, parce que bon, ça a l'air qu'on se voit dans la vraie vie aussi.
Ça arrive.
C'est un peu ça que tu me disais, puis je trouvais ça tellement intéressant de dire, c'est une façon tellement intéressante, je pense, d'aborder du contenu sur lequel je sais, on n'est pas des experts en disant, gars, je suis pas un expert, j'ai vu ces 2-3 points de vue-là ou ces 2-3... ces façons-là d'aborder le sujet, c'est clair que genre, j'oublie un million d'autres patentes. Mm-hmm. Fait que moi, j'ai vu ça, je vous présente cette partie-là, mais je pense qu'il reste un paquet d'affaires qui n'a pas été vu, un paquet de points de vue qui n'ont pas été explorés.
C'est très honnête.
Ouais.
Puis,
c'est le bon mot, honnête.
Puis en plus, à partir de là, donc à partir de cette excitation initiale-là qu'il n'y a pas un sujet, il va regarder des informations, puis il va créer un primer sur le sujet qui va permettre à tout le monde de joindre la conversation. Fait que si t'en sais plus, t'es invité à venir corriger ou à venir agrémenter ce qui se passe là. Si tu connais pas, tu es invité à poser des questions pour chercher d'en savoir plus. Mais bref, de tous les angles, c'est pour susciter une discussion. Fait que c'est une des rares fois que je vois la section des commentaires sur YouTube être respectée et être majoritairement pertinente. Donc, sérieusement, moi, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Puis vu que la chaîne prend fin, c'est quelque chose que, à quelque part, j'aimerais qu'on... que peut-être que Divan Quest essaie de faire à l'avenir.
Oui, quand on présente quelque chose, d'avoir ce point de vue-là, cette façon-là.
De personnes fascinées plutôt que de refuser de toucher un sujet parce qu'on n'est pas expert. Ouais. C'est toujours un peu intimidant, c'est toujours un petit peu épeurant.
Ouais, puis ça permet d'éviter aussi des fois certains pièges. Puis
Puis c'est une autre vidéo malade qu'il a faite qui s'appelle Something About Fallacies. Bref, les sophismes. Puis il attaque tous les sophismes dans les discussions, mais c'est fou parce que c'est une vidéo qui est en fait une collection de petites vidéos que tu peux linker individuellement. Comme ça, si quelqu'un fait un sophisme pendant qu'il te parle,
tu peux y linker direct.
Donc, on s'entend qu'un sophisme, là, c'est une faute d'argumentation.
Ouais.
Exemple, faire un appel, référer à une anecdote comme si c'était une source valable d'information. Une anecdote, c'est un seul cas, c'est pas une étude, ça peut pas comme illustrer plein de détails, des trucs comme ça. Il va même jusqu'au sophisme du sophisme que c'est pas parce que tu relèves quelqu'un qui fait une erreur d'argumentation, un sophisme, que son point est forcément invalide. Tu fais juste invalider son
point,
argument,
hein, c'est ça. Point,
cette partie-là de son argument, mais pas toute la conclusion qu'on peut en avoir tirée.
My God, je suis retourné au cégep.
Mais bref, ben, j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça m'a donné des perspectives nouvelles sur, oui, des choses qu'on a tous vues au cégep, mais ça m'a ramené ça au goût du jour aussi dans la façon de, ouais, il faut faire attention, surtout dans un discours qui est unidirectionnel comme un podcast. Fait que bref, ouais. C'est comme toutes des trucs que j'internalise beaucoup par rapport à ce qu'on fait. Puis vu la démise de cette chaîne-là, je pense que c'est des choses que j'aimerais qu'on explore à l'avenir. Fait que vous faites partie, chers auditeurs,
sinon,
de notre processus.
Effectivement, comme recommandation, Idea Channel, c'est pas regarder, mais juste de ce que tu m'as dit,
Sa façon de ça a beaucoup évolué avec le temps. Là, je remonte dans les plus vieux, je vois que son approche est différente. Mais surtout les trois dernières années, il y a une lucidité, puis il comprend mieux son rôle, puis son espèce de devoir dans les discussions.
Mais tu vois, moi, YouTube, c'est peut-être parce que j'ai pas exploré assez YouTube pour un million de raisons. J'ai jamais comme pensé explorer pour des contenus intéressants, des contenus profonds, tu sais. Puis c'est la seule faute est la mienne là-dedans. Là. Sure. Fait que moi, YouTube, tu me dis, ben, okay, qu'est-ce que j'ai suivi sur YouTube? Ah, ben, c'est généralement des vidéos beaucoup plus courtes, humoristiques. Pas nécessairement des fails, là, tu sais, puis des affaires même.
Mais c'est drôle.
Mais il y a quand même une place, par exemple, pour du contenu plus intelligent. Ben, on le voit avec YouTube Red, qui n'est pas disponible au Canada, malheureusement, puis c'est vraiment, vraiment plate. Mais où le Vsauce, en fait, le
ouais,
hey, Michael here.
Qui fait Mindfield.
Ouais, c'est qui fait Mindfield qui est vraiment intéressant. Il y avait comme un épisode qui était disponible, mais ça finit là.
Mais à l'opposé de YouTube Red, parce que YouTube Red, il essaie de faire de la télé. C'est des demi-heures,
c'est
plus traditionnel. Tandis que ce que toi, tu pourrais aller
dedans. Non, moi, c'est des trucs généralement plus courts, mais du contenu créé par... Quand on parle de créateur de contenu, là, c'est pas une boîte de production. C'est, moi, un que j'ai le plus suivi, puis qu'il en fait beaucoup moins maintenant, probablement que, comme moi, il a un peu délaissé la chose. Le gars s'appelait Walt Krender. Puis il faisait du machinima. Du machinima, c'est de prendre les vrais personnages d'un jeu puis faire une vidéo avec ça. Mais c'est des affaires hyper épaisses, courtes puis épaisses. Puis, tu sais, il y a des personnages récurrents à la limite puis qui reviennent. Il y a son à un moment donné, c'était comme
son univers.
Il y a ça, ben c'est ça. Il y a un bonhomme que c'est. Je sais pas trop, le vidéo doit être pour aider un noob. Puis il y a son noob qui est Billy. Puis Billy se fait un orc. Puis il parle comme ça. Alors, mais je m'appelle Billy. Puis il aide Billy. Puis il dit non, Billy, tu fais pas ça. Puis
c'est comment le nom de la chaîne?
Walt Krender, WOWCRENDER.
Puis okay, oui.
Puis, tu sais, à un moment donné, il s'est fait une série de vidéos qui parodie. Comment les gars là, qui fait du survivalisme, là, qui part dans le bois?
Bear Grylls.
Ben, c'est ça. Mais là, je pense que c'est Orc Grylls,
une affaire de même.
Ben, c'est ça. Le premier épisode, le gars, il s'en va genre dans Ungor Crater ou peu importe, le Stranglethorn Vale, une jungle.
Des endroits de War.
Des endroits de War. Puis, genre, à chaque fois, il rencontre un animal, puis genre, il boit sa piste. mais c'est super drôle. Puis, tu sais, le fait, quand t'es un joueur de War, de voir cet univers-là qui. Dans le fond, c'est un peu comme quelqu'un qui ferait une vidéo de parodie dans la vraie vie. Puis là, mais avec un univers que tu connais, c'est tellement drôle. C'était beaucoup des petites vidéos comme ça que j'ai regardé où je cherche le nom, peu importe, je retrouverai plus tard un autre truc de vidéos beaucoup plus court qui font des. des petites vidéos en animation cette fois-là, mais dans ces univers-là qui sont hyper courts. Puis c'est dans, je t'ai montré celui avec qui joue à Heroes of the Storm.
Oui, oui.
il joue à Heroes of the Storm, puis là, il y a quelqu'un qui franchit trop quel monstre, puis là, il part une toune de John Cena, puis le monstre, il bûche tout le monde, il arrache les têtes. Là.
Mais tu vois, c'est ça que je trouve intéressant de YouTube, c'est un peu comme les podcasts. Il y en a pour tous les goûts, mm-hmm. Peu importe c'est quoi ton intérêt, tu peux en trouver. Puis c'est fait. La plupart, c'est fait sur un low budget. Là. Ça prend pas grand-chose sur une vidéo YouTube. Il y en a qui mettent beaucoup d'énergie, beaucoup de budget. Il y en a qui se mettent riches. On pense à PewDiePie. On pense à des gens comme ça.
On pense à PewDiePie. C'est ça.
Point.
C'est ça. Non, il y en a d'autres.
Il y en a d'autres. Mais il y en a pour tout le monde. Il y a certains channels qui m'intéressent beaucoup qui sont sur des sujets vraiment pointus. Je pense à... je sais pas si vous connaissez Ghostwriter.
Ben oui.
Ghostwriter qui est un écrivain mais qui signera pas son œuvre, disons. Là. Mm-hmm. Puis Ghostwriter sur ce channel-là, il va écouter des films, il va écouter des séries, puis il va déconstruire les scripts, puis il va déconstruire les relations entre comment le film a été monté, comment les scripts ont été pensés. Puis ça donne un point de vue sur des films souvent qu'on connaît déjà, mm-hmm. qu'on a vu, puis un point de vue vraiment différent. Il va souvent dans la cinématographie des films, des choses comme ça. Puis pour quelqu'un qui s'intéresse au cinéma, après ça, tu vas tu gardes ces concepts en tête, puis quand tu regardes un film, tu vois des choses que tu n'aurais pas vues nécessairement.
Ouais, ben c'est ça. Il te parle de quelque chose que tu connais déjà d'une façon différente.
Mais c'est ça. Puis il fait des comparaisons où il prend le temps de souligner pourquoi ce film-là vous a fait sentir comme ça. Puis après, il va l'expliquer, comment les mouvements de caméra, la lumière. Puis là, tu comprends qu'il y a un art derrière ça, finalement.
Il y a une grosse section de YouTube, puis pour des raisons évidentes, mais il y a une grosse section... pour les gens qui sont fans des arts du cinéma. Mm-hmm. Parce que si tu veux faire des vidéos dans la vie, c'est probablement parce que t'aimes le format vidéo.
Ben, c'est ça.
Tu sais, comme autant que Angry Video Game Nerd puis John Tron qui ont été des joueurs majeurs dans les vidéos de gaming, c'est plus des gars qui aiment faire du vidéo que du gaming.
Ben oui.
Tu sais, puis ça, faut pas l'oublier. Tu sais, fait que c'est sûr qu'il y a une grosse partie d'Internet. Il y en a tout plein des belles chaînes.
Ils ont combiné des passions, là, c'est clair. Mm-hmm.
Juste une parenthèse, c'était le channel que je parlais, où est-ce que c'est de l'animation, là, un peu pas cheap, mais simple. Là.
Ouais.
Carbot Animation ou Carbot Video, là, qui ont fait. Ça a commencé avec des trucs de WoW, puis ils ont fait d'autres jeux de Blizzard, puis je pense qu'ils ont étendu sur plein d'autres patentes. Fait que c'est de l'animation simple, courte. Les personnages utilisent des clips sonores qui viennent du jeu directement, mais c'est tout. Il n'y a pas d'autres audio que ça. Là. Fait que c'est. Mm-hmm. C'est ça. Mais ça rentre dans une catégorie de contenu. Tu sais, c'est du bite size. Puis je pense qu'il y a comme quelque chose à explorer mm-hmm. du côté un peu plus long, un peu plus étoffé. Puis c'est là que je trouve ça le fun de vous écouter parce que je pense que c'est quelque chose que moi, en tout cas, j'utilise peu de YouTube. Puis je pense que de façon générale, c'est beaucoup moins utilisé de YouTube que du bite-size vidéo pas long.
Mais c'est vraiment il y a une dichotomie, uh-huh. Clairement, sur la façon que les gens utilisent YouTube. Parce qu'avant, il n'y avait pas. En fait, tu ne peux même pas faire une vidéo de plus que 10 minutes à moins d'être un créateur avancé.
Ça fait pas tellement longtemps. Là.
Moi, chez nous, j'ai pas de signal télé qui rentre, comme beaucoup de gens. Ben, de plus en plus de gens aujourd'hui.
Comme moi aussi. Là.
Bon, voilà.
J'ai cancellé ma télé.
Et voilà.
Ça, c'est peu dire.
Fait que c'est trouvé que, dans le fond, la raison pourquoi.
Travaille pour une grosse compagnie de télécom, puis tu cancelles la télé.
Nos références culturelles datent ici, puis c'est pas juste parce qu'on est vieux, puis on veut essayer d'être rétro. C'est parce que c'est là qu'ils s'arrêtent. On a comme rien après ça. Non, mais moi, dans le salon, mon Xbox One, je l'ai déjà dit, c'est une machine à YouTube puis à Netflix.
Et oui.
Mais quand je m'installe pour manger, je pars pas un show sur Netflix. Manger, là, réalistement, ça prend 6 minutes.
Oui.
OK? Fait que je check une vidéo qui prend 10 ou 15 minutes, gros top. C'est ça, je check en mangeant. Ma cuisine est comme isolée de la télé. Je fais à manger, j'arrive dans le salon, je pars la vidéo, puis je mange, puis il en reste pas tant. Fait que moi, vraiment, le format idéal d'une vidéo, c'est moins d'une demi-heure, mais plus que 10 minutes. Là-dedans, je trouve mm-hmm. que c'est là que j'ai le stock le plus intéressant. Puis pour en nommer un autre, tant qu'à faire des suggestions... un autre que j'ai déjà mentionné puis que tu as déjà utilisé comme source d'information dans ton épisode sur Noël, si je me trompe pas, le LGR, The Lazy Game Review, qui est un gars avec une grosse voix comme ça, mais en anglais, qui focus beaucoup, beaucoup, c'est important, qui fait beaucoup du stock rétro PC. Le gars a une collection de jeux Big Box PC hallucinante, sérieux, j'en bave. Mais en plus, le gars documente tout ça. Il achète des jeux scellés, rétro PC, il les ouvre, puis il va aller faire des beaux vidéos sur tout ça, ce qui est présent.
Cool. Est-ce qu'il les ouvre live, puis il y a du monde qui meurt en regardant ces vidéos?
Il doit en avoir.
Un peu comme Death Note qu'on parlait la semaine passée.
Mais le gars a une grosse appréciation du rétro PC, comme il y en a malheureusement trop peu. Le monde du PC est beaucoup occupé à être cutting edge. Le gaming, t'en as moins avec le rétro, mais le PC, c'est compliqué. Ça fait penser, on a une causeuse à venir, on verra quand est-ce qu'on la place, là. Mais sur Flash, qui a été annoncé qui est en fin de vie, puis que tout ça est abandonné. Le PC a un petit peu un sort semblable où l'émulation va être bonne sur PC. Il n'y a pas tant d'efforts que ça de préserver des 486, des trucs comme ça. Mais lui, il a vraiment ce dada-là de remonter du 486, de rouler ces jeux-là sur du matériel original.
Original, nice.
Puis il y a une collection folle de jeux Big Box.
C'est drôle parce que autant que tu vas parler à un fanatique de rétro sur console, puis tu vas dire, ben tu sais, j'ai émulé Little Samson, puis je voulais l'essayer, puis j'ai pas 8000$ à mettre sur une cassette, puis tu regardes avec des gros yeux, puis t'es comme, oh, tu viens de briser comme l'univers, puis qui servait de bord, puis genre, il va grogner comme une vieille affaire sur DOSBox, parce que ben non, pourquoi j'aurais un vieux 486? Ben, pour la même raison que tu roules ta cassette de NES.
Il y a un argument à faire là-dessus, on pourrait faire 8 causeuses, mais le PC est pas une plateforme unique.
Non, je suis d'accord.
Fait qu'il y a beaucoup de ces jeux-là que le monde ont experience de façon très différente par la nature de la chose. Fait qu'à cause de ça, il n'y a pas une plateforme unique comme les gens de console. Fait que peut-être que ça rend les gens moins puristes, mais c'est vrai que pour les maniaques de son, mettons, la carte de son Sound Blaster a beau être émulée, elle est émulée. C'est pas tout le monde qui sont des maniaques comme Mick Gordon, le compositeur de la musique sur le nouveau Doom, puis qui a retrouvé une Sound Blaster, qui l'a repluggé dans une rig originale, qui a refait jouer le soundtrack de Doom, puis qui l'a samplé de la Sound Blaster pour mettre dans le soundtrack du nouveau Doom. Il commence à avoir un amour de ça. Puis s'il y a de quoi, le PC mérite encore plus cette révérence-là vers l'ancien matériel parce que ça a toujours été une plateforme plus expérimentale que les consoles, qui était beaucoup plus des poursuites commerciales tout le temps. Puis si vous avez déjà vu, je vais prendre l'exemple le plus insane, là, mais Falcon 4.0, qui est un simulateur de vol militaire, la boîte, là, il y a des disquettes et il y a un cartable d'instructions parce que c'est un simulateur. La boîte, c'est juste un fucking cartable. C'est ça le monde du PC. Les livrets d'instructions étaient massifs. Puis des fois, c'était pas une exception d'avoir une carte dedans. Souvent, t'avais des cartes en tissu. Puis pour des raisons de sécurité et d'immersion de l'univers, il y avait souvent des livrets avec des illustrations, du lore. Ça fait partie du bagage sur PC.
Puis jusqu'à récemment, là, parce que, tu sais, je me rappelle ma première boîte de World of Warcraft. Là. Il t'avait un livret d'instructions là-dedans, mon gars. C'était épais de même. Il y avait du lore. Tu sais, fait que c'est récent, là. Tu parlais de livret. Je me donne une punition pour le dernier épisode. T'avais la map dont tu parlais dans Robotrek était complète. Il y avait, je pense, toutes les craftings que j'ai pu voir dessus. Oui, Jeff veut me donner une punition complète.
Et voilà.
Fait que, mais oui, jusqu'à récemment, les livrets dans les livres de dans les jeux de PC étaient encore là, comme massifs et contenaient du stock. Là.
Mais c'est sûr qu'après ça, les jeux PC ont été les premiers à faire le virage au numérique.
C'est clair.
Pour des raisons évidentes de technologie. Mais c'est ça, mais j'ai plus vraiment de jeux PC rétro. Puis de voir LGR, qui est probablement une de mes chaînes préférées depuis facilement deux ans et demi, je vais me reprocurer des jeux PC. Puis il n'y a aucun obstacle. La notion d'émulation est quand même beaucoup plus lousse. Parce que le code est très, très, très facile à transférer. Puis même si tu trouves une vieille machine, il y a maintenant des émulateurs à floppy, tu mets des clés USB qui émulent un floppy. Donc, tu peux rouler sur du matériel original sans trop de difficultés. Mais c'est tout le matériel que... C'est pas juste un poster puis un petit livret dans une boîte en carton comme sur les consoles. C'est du matériel de fou. Puis souvent, c'est des plus petites compagnies aussi qui faisaient ça. Fait qu'il y avait comme un amour derrière tout ça. Souvent, c'était des magazines qu'il y avait dans les boîtes de jeux qui parlaient des autres produits. Puis il y avait comme des interviews avec les développeurs parce qu'ils sont 8. Fait que je sais pas, on dirait que je réalise à quel point c'est une nostalgie qui est pas aussi connue. Puis ce gars-là la nourrit à bout de bras.
Si on revient au sujet initial, tu réalises à cause d'une chaîne intéressante qui va un peu plus en profondeur que les affaires que j'écoute. Puis, mais je trouve ça intéressant, là. Je vais mettre à fouiller moi aussi.
Et ses vidéos les plus magnifiques, je trouve que c'est pour les trippers, là, c'est qu'il fait des. Il goes thrift shopping. Il fait des Goodwill. Il fait des Saint-Vincent de Paul, là, qu'on dirait ici, là, mais des Goodwill aux États-Unis. Il y a plein de jeux de PC qui se ramassent à traîner dans les jeux de société parce que le monde ne sait pas c'est quoi les boîtes. Puis il ramasse plein de jeux Big Box pour des peanuts.
Mais est-ce qu'il fait autant de gags de douteux que les Power Chasers?
En général, non, mais il y en a des bons cette semaine. Je linkerai le vidéo. Il trouve un beau coussin de That's What She Said, puis ça lui permet de faire une coupe de gags de That's What She Said.
Puis tu parles de vidéos magnifiques. Il y a quand même des vidéos avec. Là, on parle de choses plus on-main, on parle de personnes, tout ça, mais il y a quand même certains channels qui ont des équipes et qui font du développement assez.
J'ai l'impression que tu peux parler de M. Blomkamp.
Ou on peut parler de Kurzgesagt.
Kurzgesagt, c'est vrai, on en a déjà parlé sur
le show. Je pense que non. C'est In a Nutshell. Je pense, okay. En français.
Non, en français,
en
ouais.
français. En anglais, pardon.
Dans une coquille de noix, là.
Dans une coquille de noix. une écaille d'épinote.
Un scrotum.
OK, ou... on a fini. Bye.
Peut-être.
Non, mais ça, mais on pense à Kurzgesagt qui fait des vidéos.
Il change pas. De clé, vas-y, dis.
Des vidéos plus scientifiques, ouais.
Mais avec des beaux motion graphics incroyables.
Un style visuel qui se démarque, là. Il y a plein de gens qui ouais. le copient sur Internet.
Bon, en fait, tous les,
rien, Dan?
Non,
toutes les vidéos reliées à DFTBA, là, Don't Forget to Be Awesome, tout ce qui vient des... j'oublie tellement les noms du monde impliqué là-dedans, mais c'est des trucs qui sont reliés à tous les crash courses de PBS. Mm-hmm. Ils ont tout le temps... ils vont tout le temps à la Thought Bubble, qui sont des petites séries d'animation qui appuient le propos qu'ils présentent dans l'épisode. Ça aussi, je pensais pas en parler, mais Crash Course, vite fait, c'est tout des cours, des primers, des résumés sur des sujets à apprendre. Ça tire très, très large. L'informatique, la philosophie, la science, on va très, très large avec tous des experts sur ces sujets-là. Il y a l'économie, d'ailleurs. C'est tout accessible, c'est tout quand même très bien recherché.
Mais tu vois, en jasant, je me rends compte, moi, que je me sers beaucoup plus de YouTube quand je vais avoir comme une information pertinente. Je vais aller voir, bon, y a-t-il une vidéo bien faite de quelqu'un d'intéressant sur le sujet, tu sais? Puis bon, c'est pas tout le temps le cas, mais je voulais en parler la semaine passée quand on parlait du Raspberry Pi, puis j'ai un peu oublié. Je suis tombé en cherchant de l'information sur le Raspberry Pi ou des tutoriels pour faire certains trucs plus particuliers sur une chaîne qui s'appelle TechWizTime. C'est un Australien qui anime ça. Super bien fait, il fait des tutoriels comme vraiment très précis sur OK, tu veux rouler tel OS, je vais te le montrer comment l'installer du début à la fin avec des explications claires, un million de links dans la description, puis c'est vraiment génial. Puis le gars, tu vois qu'il fait pas juste ça pour faire une vidéo, puis il montre quelque chose qu'il sait pas faire, tu sais. C'est un bretteux lui aussi, il a réussi à trouver, c'est probablement pas lui qui l'a fait, mais à faire une version compilée de navigateur Chromium pour écouter un Netflix sur le Pi, ce qui n'est pas évident pour un paquet de raisons. Puis il t'explique vraiment étape par étape quoi faire. Puis bon, je sais si tu vas là, puis je sais que tu es peut-être que c'était un fan de code source, puis le truc est précompilé, ben va à telle autre plage, je t'ai mis le code source.
Ouais.
Il connaît son public. Yeah, tu gosses sur un Pi, t'es pas nécessairement quelqu'un qui connaît beaucoup ça, mais t'es pas non plus nécessairement quelqu'un qui. Fait que, mais les super clair, le gars, très drôle, pas drôle, genre, haha, il fait des jokes, mais tu sais, intéressant, dynamique. Je suis comme, cool, t'écoutes la vidéo, là, pis c'est pas juste comme, bon, il va-tu arriver au crise de lien, tu sais, c'est comme.
Pis ça, c'est intéressant, pis je pense que ça mérite un shout-out à tous ces gens-là qui prennent la peine de faire une vidéo pour montrer comment remplacer le beigne de cire en dessous d'une toilette, comment gonfler les pneus de ton vélo à pédale, comment. Shifter un char manuel, comment checker l'huile sur une Hyundai 83,
comment
je sais pas.
Changer le filtre à huile sur un Camry 2001, genre c'est comme
moi j'ai
où, Chris?
Okay. Comment changer le drain d'un robinet de salle de bain, la partie qui s'en va du lavabo au drain oui, merci.
Mais ça, c'est des trucs, il y en a beaucoup, mais un peu comme Crash Course, mais à un niveau qui serait plus facile à faire, genre paierait un Patreon pour traduire ou créer une base d'informations comme ça en français. Ouais. Tu sais, sur les trucs, mettons, de plomberie, là, c'est assez commun. Là. Genre, c'est quoi de prendre des vidéos qui existent, de demander la permission de les traduire? Pas parce que je tiens à les avoir en français, mais pour avoir une source que je peux référer à, genre, ma mère. Puis les Crash Course, c'est construit par PBS, donc c'est avec la participation du gouvernement américain.
Moi, je veux les traduire pour mes élèves.
Ça sert dans les écoles. Il y a beaucoup de ces vidéos-là qui sont présentées dans les écoles. Puis, moi, j'ai toujours été en faveur, bon, c'est un gros débat, je ne vais pas me lancer là-dedans, mais de créer comme une espèce de source standardisée de certaines formations sur certains sujets, que ça peut être difficile de créer une façon dynamique de le présenter. Puis là, si tu en as une façon qui a été bien construite, qui est très, très interactive, très, très dynamique, mais tu peux t'en servir si tu veux. Mais là,
c'est ça, moi, je trouve ça intéressant. Mettons un bémol sur le standardisé parce qu'il met.
Ouais, mais c'est ça.
Mais pour ceux qui sont des personnes en éducation qui nous écoutent, il y en a peut-être quelques-uns, il y a des gens qui très beaucoup s'étendent sur ce qu'appelle la classe inversée. Puis la classe inversée, c'est de mettre dans les mains des élèves, regarde, avant de me poser une question, là, avant que je te dise quoi faire, là, je t'ai mis un lien là, va voir la vidéo, je t'ai donné une explication là, demande à quelqu'un. Tu sais, puis une vidéo de base comme ça sur un sujet, c'est comme un point de départ. Pour que quelqu'un qui travaille de cette manière-là. Puis... Fait que le standardiser, tout le monde voit la même chose de la même façon, c'est un peu, j'ai des bémols, mais regarde, c'est une source fiable, potable, va faire un tour, c'est un peu comme, mettons, de mon côté, mes élèves, je les envoie voir les vidéos d'AlloProf,
right.
Parce que c'est un peu cette idée-là, très spécialisée dans le scolaire, mettons, là, mais...
Mais c'est ça, si on pouvait avoir comme... Surtout cette source-là, spécifiquement, mériterait d'être traduite, mais ça pourrait s'appliquer à plein d'autres choses.
Ce serait une mine d'informations incroyable. T'sais, déjà, Depuis qu'elle, cette année, en fait, je peux donner mon expérience de call center, de soutien technique. Là. depuis cette année, c'est un outil officiel de travail, YouTube, pour les centres d'appel ou soutien technique.
C'est pour ça que c'est long. Les gens regardent des vidéos de YouTube comment réparer un tuyau de plomberie parce que vous n'avez pas payé de concierge pour réparer le tuyau de plomberie.
Non, mais ce que ça permet,
plumbing
c'est...
fail.
mais ce que ça permet, c'est de, dans un centre d'appel, de recevoir un appel sur quelque chose qui n'est pas nécessairement dans tes limites de sport. Ouais. Faire, écoutez, je veux vraiment vous aider, mais j'ai pas la formation, les connaissances là-dessus. Donnez-moi un instant. Je trouve sur YouTube, puis... Je te le shoot par courriel, je te le shoot par message.
Non, c'est bon.
C'est comme ça qu'il faut que tu fasses. Ouais. Ça devient un genre de one-stop shop de je vais t'aider.
Puis,
peu importe pourquoi.
Puis plus loin, pour une compagnie qui décide de pousser le concept, peut faire ses propres vidéos d'aide. Puis après ça, au lieu de passer 20 minutes au téléphone à expliquer quelque chose à quelqu'un.
Il y a déjà des initiatives dans le genre, mais oui, tu sais, ça mérite. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire. D'aider tes clients à trouver l'information où ils la cherchent. Ouais. Mais bon, on s'éloigne un petit peu de la notion, mais je pense que le vidéo éducatif est quand même, genre, sans l'appeler comme ça, est vraiment une partie importante.
Oui,
mais c'est vrai.
On entend toujours parler des créateurs de contenu qui se mettent riches ou qui font des frasques sur YouTube ou qui ont des opinions qui sortent de l'ordinaire ou peu importe. Ouais. Mais je pense que ces héros silencieux-là, la masse de millions de vidéos...
Tous les Maurice de ce monde qui montrent comment changer une poignée de porte.
Merci.
Mais éducatif, il faut le voir aux chances très, très,
très large.
Parce que je parlais d'Idea Channel, je parlais de LGR qui fait de l'histoire du gaming PC oublié. C'est de l'éducation.
Ghostwriter qui parle de cinéma, de technique.
En fait, c'est encore plus directement de l'éducation parce qu'il n'y a rien comme prendre « Hey, voilà ça, ce qui te fait triper, là. On va le déconstruire ensemble. » c'est ce que tout prof de cinéma essaye de faire anyway.
Dans le fond, cette causeuse-là, c'est la causeuse parce qu'on dit « Tu sais, YouTube, là, ben oui, c'est plein d'affaires weird, mais en même temps, il y a un paquet de trucs intéressants puis il ne faut pas genre bâcher sur la plateforme. »
Ouais,
il faut explorer un peu plus puis voir comme des trucs intéressants qui peuvent être faits avec ça.
Et justement, on va... On a suggéré quelques-uns, mais on va... D'ici à la sortie de l'épisode, on va prendre en note les trucs qu'on trouve intéressants, puis on vous sort un complément d'information. Je nous rends responsable de ça.
Donc, les top channels YouTube de DivanQuest?
Channel et vidéo. Si on peut être plus spécifique dans certains cas, parce que j'ai l'air d'être le seul qui est vraiment comme abonné à des channels. De façon
non, mais je vais probablement voler ton idée quand je mange au lieu d'écouter un bout d'émission que je finis plus tard. Là.
Mais c'est fou, puis YouTube a quand même un format d'abonnement des chaînes. T'sais. Fait qu'il peut te présenter toutes tes chaînes avec toutes les nouveautés qu'ils ont. Donc, ça devient facile de digérer tout ça. Mais bon, ça, c'est de la poutine, là. C'est juste de l'enrobage de tout ça. Puis, je viens de parler de poutine, fait que j'ai faim. Fait qu'on arrête ça. Fait que, c'était la conseil pour cette semaine.
À la semaine prochaine.
Salut, là.
Salut.